Très bien. Donc après le propos de Louis Breuls, bon, vous dire que le travail que je vais présenter en fait est la synthèse en fait d'une note d'une vingtaine de pages qui est le produit d'un groupe de travail regroupant une dizaine de collègues directeurs d'établissement ou contrôleurs de gestion. Donc la note que je vais présenter est pour avancer, c'est comme là, c'est ça? Voilà, c'est bon. Ah, je n'ai pas la même chose à l'écran que sur. Ok. D'accord. Très bien. Oui, donc, rappeler en premier lieu que ça a été indiqué tout à l'heure par M. Kurt, c'est que le statu quo actuel n'est pas du tout satisfaisant et qu'il est absolument nécessaire d'avancer. Depuis de très nombreuses années, il y a des réflexions sur le sujet et je crois qu'il est temps aujourd'hui d'avancer sur un cadre relativement clair, précis, pour donner de la visibilité aux acteurs. Bon, le premier point qui est souligné, c'est d'abord des inégalités historiques importantes. Elles ont été rappelées par M. Kurt tout à l'heure. Les disparités, elles existent entre régions sur plusieurs critères, hein, à la fois les financements, mais aussi la répartition de l'offre, hein, puisqu'on sait que certaines régions ont une offre, notamment en libéral, qui est en clinique, qui est beaucoup plus importante que dans d'autres. Ça a été indiqué, je crois, il y a une soixantaine de départements dans lesquels il n'y a pas d'offre pour le secteur privé, par exemple. Ensuite, c'est sur l'opacité dans l'affectation des ressources. Hein, elles sont historiques. Elles ont été parfois très dépendantes, parfois des interventions politiques, locales ou d'autres critères. Donc, il y a une nécessité de rompre avec cette opacité. Et puis, des corrections, ça c'est un point de vue qu'on avance, c'est sans fondement théorique. Hein, c'est-à-dire que là, je me démarque un petit peu de Louis, et on se démarque de Louis, c'est-à-dire la situation actuelle voit en fait des critères dont on ne sait pas très bien comment et sur quelle base ils sont fondés. Hein. La meilleure preuve, c'est que quand on va d'une région à une autre, les critères changent. Voilà, ça c'est la première observation. Deuxième observation qui, là, est sur la description, en fait, la question du financement de la psychiatrie, c'est de rappeler quand même, c'est important, le point important de la médecine de ville, hein, ça a été indiqué tout à l'heure aussi par M. Kurt, la médecine de ville, les médecins de ville prescrivent, sont des gros prescripteurs, notamment de psychotropes, et on ne peut nier, en fait, là, le financement, enfin, les modalités de consommation de ressources par la médecine de ville. Je l'indiquais tout à l'heure, une répartition très inégale des cliniques privées sur le territoire métropolitain. Il y a des régions où il n'y a pratiquement aucune clinique privée et d'autres où elles correspondent, au moins en termes de lits, pratiquement à 40%, je crois que c'est le cas, c'est l'ex-région Midi-Pyrénées en termes de lits et en termes d'activité, peuvent représenter une activité très importante. L'exercice libéral ambulatoire est aussi inégalement réparti. Il pèse aussi dans les dépenses, hein, de l'ordre d'à peu près 10%, je crois, des consommations. Là encore, il y a des inégalités importantes. Et bien évidemment, l'offre de nos établissements dépend fortement de cette présence ou non. Dans la région où je suis, il n'y a aucun médecin libéraux, ni dans l'Orne, pratiquement aucun dans la Manche. La seule offre libérale en psychiatrie est concentrée quasiment uniquement sur la seule ville de Caen et un peu sur le territoire de la Côte Fleurie, c'est-à-dire à proximité de Deauville et Trouville. Autre point qu'on a tendance aussi à nier, à négliger, c'est le point important de la consommation des financements qui passe par le modèle du financement médecine et notamment les CMD 17 et 18, hein. 19, voilà, sur ces CMD qui occupent un point important, puisque 19 et 20, voilà, sur les 19 et 20, puisque on arrive pratiquement à l'ordre de 15% de la consommation des dépenses de médecine sont affectées à ces dépenses en psychiatrie. Et puis, dernier point, et on l'a souligné, je l'ai souligné hier, c'est qu'on a aussi des dépenses qui sont clairement sur le même champ que le champ de la psychiatrie, et je pense notamment au CMPP dans le monde médico-social, hein, puisque quand on discute notamment sur une offre de proximité en pédopsychiatrie, il est clair qu'il y a parfois, hein, même ça se voit géographiquement, il y a un partage des activités entre les CMP enfants et adolescents et les CMPP. Or, ces dépenses sont totalement ignorées. Alors, diapo suivante. Voilà. Alors, sur la tarification, et je crois que c'est l'élément quand même qui nous apparaît important parce qu'on tourne autour du sujet depuis un petit moment, hein, depuis quelques années. Je crois que clairement, notre position, c'est d'affirmer qu'il n'est pas possible d'avoir une tarification à l'activité en psychiatrie, pour plusieurs raisons. La première, c'est une difficulté conceptuelle, hein, d'une tarification à l'activité, puisque c'est quand même la caractéristique majeure. Il n'y a pas de lien direct entre la nosographie et la prise en charge. Hein. Ce n'est pas parce que vous êtes classé psychotique que vous allez consommer les mêmes soins. Certains des patients ne sont quasiment jamais hospitalisés, alors que d'autres vont consommer des ressources extrêmement importantes, et notamment en étant présents dans les unités dites de long séjour dans nos établissements. Donc ça, c'est le premier point. On ne peut pas, comme en médecine, considérer qu'il y a un lien entre une classification, entre une description d'une pathologie et les ressources qui sont affectées. Le deuxième point qui me paraît important aussi, c'est la grande diversité des modes de prise en charge. Il suffit, ne serait-ce que pour s'en rendre compte, de lire la SAE. Hein, vous avez, et c'est lié, en fait, je crois, c'est inscrit dans le Code de la Sécurité sociale, la très très longue litanie. Il y a, je crois, 28 modalités de prise en charge dans nos établissements, hein, puisqu'on va de l'hospitalisation à temps complet jusqu'aux appartements thérapeutiques, jusqu'à la litanie est très importante. Donc la difficulté aussi, c'est de pouvoir caractériser en fait une activité précise. Autre point qui mérite d'être souligné, c'est que si on passe dans un modèle de tarification à l'activité, il faudra bien évidemment s'inspirer de ce qui se fait dans le champ conventionnel. Je vous rappelle que dans le champ T2A, la tarification des consultations se fait sur le modèle du champ conventionnel. Or, nous avons dans nos établissements des acteurs importants qui interviennent notamment sur l'ambulatoire, que sont les psychologues. Il n'y a pas de convention médicale pour les psychologues. Comment fera-t-on pour... Il faudra arrêter un tarif si pour les consultations... Parce que ce n'est pas tout à fait celui que j'ai, moi. Voilà. Parce que je l'avais simplifié. Financement des modules robustes et simples, donc c'est avant. Voilà. Oui, financer les missions inscrites dans la loi. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est quelle est l'activité et quels sont qui est reconnue à nos établissements. La première chose, c'est qui est une des nouveautés de la loi de janvier 2015, c'est la psychiatrie dans la cité, notamment ce qui est autour du projet territorial de santé mentale, mais aussi l'affirmation, pour la première fois dans un texte, de la présence des conseils locaux en santé mentale. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important, qu'on doit, c'est une mission sur laquelle nous devons, et qui est en fait le soutien un peu de la psychiatrie à la prise en charge des personnes et qui correspond un peu au virage inclusif dans le champ social et médico-social. La psychiatrie de secteur, ça a été rappelé par Thierry Cure tout à l'heure, pour la première fois depuis, on a dans le Code de la Santé, dans la partie législative, on a la définition de la psychiatrie de secteur. La question de la précarité est aussi évoquée dans notre partie du Code. La question des urgences, qui est traitée indirectement, non pas dans la troisième partie, mais dans le bloc, dans la sixième partie du Code, autour de la médecine d'urgence, où là, la place de la psychiatrie est indiquée. La question de la psychiatrie sans consentement, qui est une question qui fait débat, y compris au sein du groupe. Et puis, les unités pour malades difficiles. Et puis, enfin, la psychiatrie pénitentiaire. La psychiatrie pénitentiaire est une grosse consommatrice de ressources, et elle n'est pas nécessairement décrite de manière exhaustive par les établissements. Aujourd'hui, il y a certains établissements qui sont autorisés, qui disposent de SMPR ou du HSA, mais beaucoup d'établissements sont des acteurs à côté des services somatiques dans la plupart des centres pénitentiaires, et pour autant, cette activité n'est pas suffisamment identifiée, et elle correspond à une mission très spécifique qui, bien évidemment, n'a aucun lien avec le territoire, hein, qui est celui de la psychiatrie de secteur. Donc, le cœur un peu de notre réflexion, c'est de dire qu'il faut partir des missions qui sont inscrites dans la loi. Ces missions-là, on ne les invente pas, elles sont dans la loi, et c'est ces missions qu'il faut financer. Et là, Je ne vais pas utiliser le terme de compartiment parce qu'il est trop connoté, mais on a de fait une segmentation de nos activités. Et c'est sur la base de ces segmentations d'activités qu'il faut construire un modèle pour chacune de ces missions. Donc, ce qu'il nous faut, c'est des financements qui soient adaptés aux activités. Et là, on le dit clairement, ça peut être éventuellement d'un tarif. Le financement des urgences peut tout à fait être fondé sur un mode de tarification qui est lié au passage, de la même manière qui n'est pas fondamentalement différent de la prise en charge aux urgences dans les services de médecine des hôpitaux généraux. Et par contre, au forfait, qui peut être... voilà. Donc il faut qu'on invente, qu'on ait une modularité de financement, et donc en ce sens, on sort du modèle de la DAF, on a des modèles qui sont adaptés à chacune des activités. Ensuite, il nous faut des financements qui évitent une trop grande complexité, c'est-à-dire qu'on a besoin de modèles relativement simples, assez robustes, qui nous permettent de pouvoir avoir une prévisibilité. Et puis, dernier point, ça c'est important, c'est des modèles qui soient aisément administrables. Le modèle de la tarification à l'activité est un modèle extrêmement consommateur, par exemple, de ressources, à la fois dans la collecte de l'information, le traitement de l'information, et puis dans la gestion par le planificateur central. Donc, il nous semble qu'il faut être sur des modèles relativement simples de ce point de vue. Il nous faut aussi des modalités qui soient adaptées aux prises en charge. Donc, il nous apparaît très clairement que sur la psychiatrie de secteur, qui est le bloc en gros, et ça c'est important de le dire et de le rappeler, y compris aujourd'hui dans les discussions qu'on peut avoir au sein des GHT, la psychiatrie de secteur, elle est d'abord un acteur du premier recours. Et donc, au même titre que la médecine générale. Vous le savez tous, un patient peut venir consulter dans un CMP sans passer nécessairement par son médecin traitant. Donc elle est la psychiatrie de secteur, c'est une psychiatrie dans la cité et qui est une psychiatrie de premier recours. Et on peut l'articuler, c'est le sens qu'on a, avec en gros le bloc qui serait CMP pour aller un peu vite, ambulatoire CMP, et j'irai pas plus loin, et les unités d'admission. C'est cet ensemble-là qui nous semble devoir être financé sur une base populationnelle parce que c'est bien une population de proximité qui est prise en charge. Deuxième sujet qui mérite aussi d'avoir des financements, c'est des activités qui sont spécialisées à caractère éventuellement suprarégional ou supraterritorial. On sait tous que dans certains territoires de santé, il n'y aura pas nécessairement, par exemple, une unité d'hospitalisation d'enfants et d'adolescents. Ces unités ont une vocation qui est beaucoup plus large que le territoire du secteur, donc elles doivent appeler à des financements qui sont des financements particuliers. Il y a aussi des activités qui sont particulières, on l'a indiqué tout à l'heure, c'est-à-dire que sur au titre de la précarité, on les a listées tout à l'heure. Il nous faut aussi financer de manière très claire et très spécifique l'enseignement et la recherche. On peut être associé, certains de nos établissements sont engagés, ont des universitaires, d'autres n'en ont pas, mais il y a des activités, on le voit, autour des fédérations régionales. Autre point qui mérite d'être abordé, c'est le financement des actes professionnels réalisés au bénéfice des patients, qu'ils aient ou non une cotation dans le champ conventionnel, c'est le cas des ECT ou des TMS. Et puis, on doit aussi, bien évidemment, intégrer dans ce modèle une amélioration, la performance dans les prises en charge. Alors, sur les perspectives, un petit peu à partir de ces orientations, il nous semble aussi nécessaire d'affirmer la place du contrat. Nos établissements signent des CPOM. Il faut que ces CPOM aient un sens. À côté du contrat, ils ont toute leur place pour donner des orientations pour l'établissement, orientations qui peuvent être négociées avec les agences. Ensuite, il paraît important aussi de bien définir les formes et les contours des prises en charge en psychiatrie. On voit bien que là, il y a quelques... Et puis, dernier point, c'est ce qu'on appelle un peu rapidement d'un panier de soins en psychiatrie. Aujourd'hui, il y a des formes, il y a des nouveautés, il y a des prises en charge pour tout ce qui tourne autour du rétablissement ou de la réhabilitation mérite d'être clairement indiqué, y compris dans le cadre du contrat que l'établissement peut signer avec l'agence de façon à ce que on ait une relative homogénéité et qu'on n'ait pas nécessairement, même s'il doit y avoir en fait une initiative des acteurs, qu'on ait quand même des choses qui soient une offre de qualité sur l'ensemble du territoire, offre qui est considérée ou qui est validée, notamment par, bon, ça a été indiqué aussi tout à l'heure par Thierry Curt, notamment par le rôle de la HAS, où là on a besoin d'avancer pas à pas sur, dans ce domaine. Et puis, dernier point, c'est définir des indicateurs d'efficience. Alors, il en existe, hein. Je pense que les travaux qui sont menés notamment sur l'ATI autour des coûts ont toute leur place, bien évidemment, dans ce cadre-là. Voilà un peu d'une manière un peu rapide, les orientations que nous entendons privilégier. Moi, je dois vous dire que j'ai entendu dans les propos de Thierry Curt tout à l'heure des choses plutôt positives, hein, par rapport à ce qu'on affirme ici, notamment quand il reparle sur des missions. Hein, et je pense que c'est dans cette direction-là qu'on doit travailler, de façon à construire des modèles simples, robustes, et qui nous permettent d'avancer et qui nous donnent toujours une relative souplesse dans les formes de prise en charge qui sont assurées dans nos établissements. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Le temps de la pause est arrivé. Donc je suggère que nous reprenions les travaux à 11h30, en 10 minutes. Nous garderons notre petit quart d'heure de retard jusqu'à la fin de la matinée. Merci beaucoup.